tu commences ce matin par une nouvelle économique.
Oui, c'est ça. Je vous en parle une fois de temps en temps parce que ça nous sort de la COVID, d'abord.
Mm-hmm.
Puis deuxièmement, ça nous projette dans l'avenir de l'après-COVID parce qu'il y a du bon travail qui se fait au niveau économique. Bon, il y a toute la stratégie pour faire du Québec la batterie d'énergie verte sur le nord-est américain. Il y a du travail qui se fait aussi pour développer la filière électrique avec la batterie verte, la batterie au lithium ici au Québec. Bon, et aujourd'hui, donc, le gouvernement Legault va dévoiler son plan d'action pour valoriser ce qu'ils appellent les minéraux critiques et stratégiques, Paul. Les minéraux critiques et stratégiques. Le Québec veut se positionner comme étant un fournisseur fiable et stable de ces minéraux. Ils entrent dans la fabrication de tout ce qui est électronique de fine pointe. Par exemple, tout ce qui est portable, il y a des minéraux critiques, stratégiques là-dedans. Je vais vous donner des exemples dans un instant. Les appareils médicaux, par exemple, tout ce qui est résonance magnétique, pour les fabriquer, il y a certains types de métaux très précieux et très rares qui entrent dans leur fabrication. Même chose avec tout le secteur de l'aérospatial, même chose avec la voiture électrique. Alors, je vous parle de quoi? Je vous parle de lithium, ça on a déjà parlé, Paul, pour la batterie. Je vous parle de graphite, on en a au Québec. Je vous parle de nickel, qui entre dans la fabrication, évidemment, de l'acier inoxydable. Important, l'acier inoxydable dans tout ce qui est notamment aérospatial. Mais je vous parle aussi de minéraux qu'on connaît moins. Oui, c'est ça, des minéraux dont on parle moins. Par exemple, le vanadium. J'ai jamais entendu parler du vanadium.
Moi non plus.
Bon, c'est ça. Le niobium. Je sais pas si tu le savais, mais le Québec est le deuxième producteur mondial de niobium. On a une mine au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le scandium. On aurait au Québec, ils veulent le valoriser. Puis ils veulent valoriser aussi à travers ça le magnésium qui est contenu dans les résidus d'amiante. Tu sais, les grosses montagnes d'amiante autour d'asbestos, ben, qui va s'appeler Val des Sources, il y a du magnésium là-dedans. Alors, Paul, la beauté de l'affaire, c'est qu'on a beaucoup de ces métaux rares, de ces minéraux rares dans notre sous-sol, mais on ne sait pas où ils sont. Il faut les trouver si on veut éventuellement ouvrir des mines puis mettre en valeur... Donc, ces minéraux. Et aujourd'hui, donc...
Moi, j'ai une autre question, si tu me permets.
Vas-y, vas-y.
Parce que, je suis d'accord avec toi, là, on sait que ça existe. Maintenant, il faut savoir où. Là.
Exact.
Mais malheureusement, dans l'histoire du Québec, puis je ne veux pas en faire un long plaidoyer... Là,
une scène la tonne!
Ben, tu sais, là, c'est-à-dire que tu le dis, c'est dans notre sous-sol.
Ouais.
Mais on le sort du sous-sol, puis la partie la plus payante, la transformation, puis la fabrication de produits... C'est souvent ailleurs.
Est ailleurs. Puis même, il y a eu une scène la tonne. C'était même pas de la transformation.
Non, c'est ça.
On sortait le minerai de fer.
Écoute, au Québec,
on le vendait pour une bouchée de pain.
Les redevances sur l'eau ont été ridicules et sont encore pas très élevées.
C'est ça.
Fait que moi, je suis bien d'accord là, pour mettre en valeur les matières premières. Là.
Assurons-nous qu'on en retire un profit, un bénéfice.
J'espère. Là.
Voilà, exactement. Alors aujourd'hui, donc, j'allais dire, Jonathan Julien, le ministre des Ressources naturelles, va dévoiler ce qu'il appelle son plan de valorisation des minerais critiques et stratégiques. Il met près de 100 millions là-dedans pour notamment faire de la géolocalisation, les trouver, former des scientifiques qui vont être spécialisés dans ces métaux très, très rares, appuyer la R&D et tout ça. Et j'espère bien, Paul, parce que Fitzgibbon va être là aussi, parce que Investissement Québec va être appelé éventuellement à devenir partenaire financier de ces investissements. Il faut s'assurer, Paul, effectivement que...
Est-ce que c'est le plan Nord, volet numéro 2?
C'est drôle que tu dises ça, parce que c'est exactement ce que je me disais un matin en m'en venant.
Okay.
Je me dis, on est dans le prolongement du plan Nord. Mais plus précis, je te dirais, une niche beaucoup plus pointue. Parce que la raison pour laquelle je suis assez enthousiaste quand je parle de ces sujets-là, c'est parce que j'y vois un positionnement très intéressant pour le Québec. Actuellement, là, on s'entend-tu, peu importe qui va gagner la présidentielle américaine, là, la rivalité avec la Chine ne va pas diminuer. Là. La concurrence entre les États-Unis et la Chine est appelée à perdurer. La Chine est actuellement le principal fournisseur de ces minéraux critiques et stratégiques aux États-Unis. Les États-Unis dépendent des Chinois, imagine-toi, pour tous ces métaux dont je te parle. Alors, ils veulent diversifier leurs sources d'approvisionnement et c'est le positionnement que Legault a pris. Il est allé aux États-Unis à un moment donné, il leur a fait ce pitch-là. Jonathan Julien est retourné lui aussi. Et dans le fond, ce que le gouvernement Legault fait, le gouvernement du Québec fait, dans le prolongement, effectivement, de ce que Charest avait mis en place, c'est de dire aux États-Unis, « Hey, vous avez un partenaire au Nord, un État démocratique qui est stable, qui va vous fournir des conditions d'investissement intéressantes. Évidemment, ça va vous coûter plus cher que si vous alliez dans certains autres pays d'Afrique, mettons, parce qu'on a des règles environnementales qu'on veut faire protéger. On a des redevances, on l'espère, qui sont un petit peu plus élevées.
On a des lois concernant le travail.
Oui, 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 voilà,
je
exactement.
Je me suis fait raconter plein d'histoires, moi, d'investisseurs étrangers, chinois notamment, qui, eux autres, on débarque au Québec, on fait ce qu'on veut, on transporte notre main-d'œuvre ici, puis arrangez-vous.
Ça marche pas de même.
Non, mais c'est ça.
Faut pas que ça marche de même.
Tu irais expliquer ça à Rimbaud, toi, que ça va être de même, là. Tu vas voir que le chinois va trouver sa visite un peu moins agréable.
Oui, oui, c'est ça, il retournera pas sa côte. Non. Un petit bout. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, il y a quelque chose de porteur là-dedans, en s'assurant, bien entendu, qu'on en retire notre propre bénéfice. Et puis, dans un contexte où on veut lutter contre les changements climatiques, dans un contexte où on veut décarboniser notre économie, bien, tout ce qui peut contribuer à développer la voiture électrique, à mettre à la disposition de l'industrie, de la filière électrique, des métaux dont elles ont besoin, je pense que ça pourrait être très, très, très intéressant. Alors donc, ça va probablement passer inaperçu, Paul, aujourd'hui. Tu verras pas des grandes manchettes avec ça. Mais je trouve que sur le long terme, le fait que le Québec ait identifié 22 minéraux comme ceux dont je vous parle, concentrés beaucoup dans trois régions, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord du Québec. Ça veut dire quoi, Paul? Ça veut dire qu'il va falloir travailler avec les Autochtones. Fait que il y a une belle occasion dans ce plan-là également. Tu sais, au-delà des maudites chicanes sur les grands concepts vaseux, là, on peut-tu s'asseoir avec les Innus sur la Côte-Nord, avec les Cris dans le nord du Québec, avec les Atikamekw également? On peut-tu s'asseoir avec les Anishinaabe en Abitibi-Témiscamingue puis développer des projets porteurs qui vont leur permettre d'y trouver leur compte, tu sais, et qui nous permettent comme économie de se positionner d'une manière stratégique, de devenir un fournisseur fiable pour la grande industrie américaine. Puis assurons-nous évidemment que quand on... Parce que là, on a une entente pour cartographier le territoire québécois. On a signé une entente avec le Geological Survey machin chouette. On peut-tu s'assurer, Paul, que s'ils finissent par savoir où sont les minéraux, assurons-nous que s'il y a des investissements américains, qu'on soit des partenaires et qu'on soit, tu sais, qu'on retire notre part de profit.
Un mot sur l'industrie hôtelière, là, il y a beaucoup de grogne. Ça fait quelques jours, il y a des lettres ouvertes puis des entrevues. Parce que là, c'est dans la question on comprend qu'il n'y a pas de taux d'occupation est à son plus bas, là.
Oui.
Mais là, comment tu gardes en vie ces institutions, là? Pensons à Montréal, là, il y en a plusieurs, là.
Exactement. Alors, tu les as vus passer. Hier, il y avait une lettre, les hôteliers lancent un SOS parce que là, ils disent, écoute, notre industrie s'est effondrée. On est une industrie importante. Puis c'est pas vrai qu'on est juste des gros joueurs, disent-ils. Il y a des petits hôteliers, des moyens hôteliers. Dans certains cas, c'est des entreprises familiales. Puis ils disent, on est au bord du gouffre. Et puis là, notre patience a atteint sa limite. Et là, il y avait dans cette lettre ouverte d'hier une petite pointe dirigée contre la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui disait, en parlant de l'annonce de la ministre, « Une annonce habilement ficelée de 750 millions, principalement sous forme de prêts. » Une annonce habilement ficelée. On va dire en affaire, Mme Proulx n'a pas apprécié. Alors aujourd'hui, elle répond par sa propre lettre dans la presse. Mais tout ça pour te dire...
On ne peut pas critiquer le gouvernement, c'est strictement interdit.
Non, mais attends...
Parlez-en Pascal Bérubé, parlez-en Manon Massé.
Ouais. Mais là, non, mais chez Proulx, ils reconnaissent qu'il y a un problème. Moi, te le dis, c'est quoi le problème?
C'est quoi?
Il a annoncé 750 millions pour l'industrie touristique. Il y a une bonne partie de cette aide-là, 450 sur les 750, c'est des prêts. Bon. Puis la manière dont ça fonctionne, c'est que pour avoir ton prêt, il faut que tu passes par la banque. Puis tout ce qu'ils demandent à la banque, c'est de garantir 10 % du prêt. Si la banque a garanti 10 % du prêt, le gouvernement prête l'autre 90 % à l'hôtelier. Mais mot à dit manque. Il y a des banquiers qui veulent même pas prêter le 10 % Paul. Ils trouvent que c'est encore trop. Ils veulent pas prendre de risques.
Il n'y a pas de sang dans les veines d'un banquier, tu le sais. Il y a de l'acier froid.
Entre autres, de l'acier froid. Mais je vais te dire une chose, là, Mme Proulx, voyant que l'argent ne sort pas, parce qu'elle a annoncé un beau programme, mais les hôteliers ont de la misère à aller chercher l'argent parce que les banquiers ne donnent pas le 10 %. Fait que là, Mme Proulx a dit aux hôteliers, venez-vous-en direct à Investissement Québec. Laissez faire le 10 % des banques, on va vous garantir le 100 %. Puis, parce que là, Paul, il y en a qui vont crever.
Mais non, mais c'est sûr.
Il y en a qui vont crever, là.
Les restaurants, c'est pareil.
Tu comprends? Je veux dire, sur le 450 millions de prêts, là, t'en as à peu près 10 % qui a été prêté. Fait que ça marche pas, là.
Ça, ça arrive souvent des programmes annoncés, puis c'est compliqué ou c'est. Puis là, ça aboutit pas.
C'est toi qui me le disais l'autre jour. Tu me disais, tu entends parler des gens, tu parles à des entrepreneurs qui te disent maudit que c'est compliqué de faire affaire avec Québec, c'est bien plus simple.
Il va falloir... simple Ottawa.
Comment?
C'est plus simple Ottawa.
Ben oui, c'est ça. Il va falloir que François Legault, qui avait fait la rationalisation de l'État, là, un État plus efficace, ça faisait partie de son credo. Il faudrait peut-être qu'il.
Soit constructif. Non, mais écoute.
Ça te fatigue, hein?
Ben, je trouve ça.
Tu trouves qu'ils sont regarde, devenus trop.
On comprend qu'on est dans une crise.
Trop sensible.
On comprend. On comprend que le taux d'approbation se promène en 65, 70, peut-être 75. On est bien d'accord, mais tu as le droit de poser des questions quand même. Quand tu es journaliste puis quand tu fais partie de l'opposition, là, c'est un petit peu normal. Il faut être constructif. Pas le temps de faire des crises pour rien puis des jeux de mots plates.
Tu es en train de mettre en question la paix sociale.
Non. Juste dire, on peut-tu faire notre job, là, tu sais, mais c'est quand t'arrives, puis là, tu comprends la fatigue, là, tu deviens plus irrité.
Oui, il va falloir qu'il fasse attention.
La question, là, tu sais, qui dérange, là, elle pique un peu trop fort.
Oui,
que...
c'est ça.
C'est correct. On va continuer, puis je te souhaite une bonne journée.
On continue le dialogue.
Merci, salut. 7h13. Allons-y sur Décarie.